16h45, dans tout un retour à CIM 103-903. Il y a une folie en ce moment entourant le film Star Wars numéro 9 qui survient là, depuis les dernières semaines, puis on le sent de plus en plus. Il a vu le film avant tout le monde. Philippe Lemieux est avec nous. Salut, Phil!
Salut, gang!
Ça va bien?
Écoute, t'as un habillement exemplaire et sur lequel il y a des petits Yoda.
Ben oui, ça chandail de Noël de Yoda.
Hier, t'es allé voir le nouveau Star Wars. Oui. Tu vas pas nous dévoiler aucun
poche? Absolument pas. Non, ça faut pas faire ça. Oui, j'étais au visionnement de presse et tout ce que je peux dire, c'est qu'on va passer un bon moment, les gens qui vont aller voir le film, certainement.
Ah, c'est le fun, ça.
Encore une fois, J.J. Abrams, qui avait fait le Réveil de la Force, le premier de la nouvelle trilogie.
Oui, qui était en fait donc le 6.
Le 7.
Le 7, OK.
Le 7, rend clairement hommage, encore une fois, à toute la franchise et en particulier à la création de George Lucas. Alors, je me suis dit que ce serait intéressant et important aujourd'hui de revenir sur George Lucas et les débuts, donc la réalisation de ce premier film-là qui n'avait pas été évidente. Et d'ailleurs, aucun studio ne voulait financer ce film-là. Le scénario était, ma foi, incompréhensible. Il ne faut pas oublier qu'en 1975-16, des mots comme R2-D2, Chewbacca...
Ça veut... on n'y croyait pas du tout.
Non, ça ne veut rien dire à personne. Puis malgré ça, quand Fox, finalement, un des producteurs chez Fox, lui a offert un budget de 8 228 228 $ précisément...
C'est pas grand-chose, mettons.
Presque rien pour un film comme celui-là. Mais malgré ça, et malgré que tout le monde avait dit non, il a dit non, Lucas, parce que j'ai trois conditions. Si tu veux que j'accepte ton 8 millions de $ là, il y a trois conditions. Imaginez... ce que ça prend comme courage.
Il
a du
courage, et là,
il est culotté, oui.
Mais c'est là que l'histoire va s'écrire dans le cinéma, parce que les trois conditions sont les suivantes. La première, c'est qu'il veut le final cut, comme on dit en anglais, donc le droit de regard sur la version finale. Ce ne sont pas les producteurs, le studio qui décide, c'est lui, c'est son œuvre. Deuxième, il a le droit exclusif sur les suites. Ce que Fox lui a donné, parce que de toute façon, il n'y en aura pas de suite
à
ce film-là qui va sombrer dans l'oubli au box-office dès sa sortie. Et troisième et dernière clause dans son contrat, il contrôle l'industrie des produits dérivés autour de ce film-là.
Voici trois points hyper intéressants. Ouais.
Et les produits dérivés, à l'époque, ça vaut rien. Ça vaut rien. Il se vend quelques montres de Mickey Mouse à Disneyland, là, et quelques posters ici et là de t-shirts de Jaws.
Alors qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre.
Ah, c'est, il fait bien plus d'argent là qu'en fait
exactement.
Le film.
Oui. Il faut dire que les gens qui ont dit non doivent se mordre le pouce.
C'est sûr.
Ont probablement été congédiés depuis, je te
probablement,
dirais.
Oui.
Probablement. Bref, pour faire ce film-là, il a dû faire face à plusieurs problèmes. Il a fondé une compagnie d'effets visuels qui s'appelle Industrial Light and Magic, ILM. Et c'est un groupe de jeunes là, dans la vingtaine qui a donné de l'argent puis leur a dit, écoutez, réglez les problèmes, construisez les vaisseaux qui n'existent pas à partir de modèles réduits. Ils ont pris des modèles d'avions et de tanks de Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont...
modifiés.
Oui, ils ont pris tous les morceaux puis ils en ont fait les vaisseaux que l'on connaît. Et ils devaient régler le problème de comment filmer ces vaisseaux-là à haute vitesse dans l'espace. Alors, Lucas, lui, ne peut pas rester là. Il s'en va en Tunisie filmer avec ses acteurs. Et quand il revient après les semaines de tournage, ILM a dépensé 1 million de $. Ils ont travaillé pendant un an et il y a une seule prise de compléter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de pouvoir filmer une seule prise, il fallait construire toutes les caméras, tous les équipements, il fallait mettre en place toute l'infrastructure parce que ça n'existait pas une boîte à effets visuels comme ça à l'époque. Puis aujourd'hui, c'est tout fait numérique. Là.
Oui, mais quand même, à l'époque, c'était ça. Est-ce que ça l'a fait paniquer, George
Lucas? Ben oui, ça l'a fait absolument paniquer. Puis là, il est obligé de vraiment être présent physiquement et de s'occuper là, de sa compagnie d'une façon beaucoup plus importante. Là. Donc, le film prendra l'affiche le 25 mai 1977, il y a 42 ans maintenant, dans 32 salles. Ce qui est
risible.
Comparativement aujourd'hui, oui, tout à fait. Puis Lucas s'en est même pas rendu compte parce qu'il est encore en montage, lui. À l'époque, il fallait faire différents montages sonores selon les speakers, les haut-parleurs des différentes salles de cinéma. Il y en a qui étaient mono, il y en a qui étaient stéréo.
Donner l'ambiance. Là,
alors, il y avait différents mix à faire. Puis il raconte dans sa biographie qu'il est sorti de la salle de montage. Puis il y avait une ligne de gens qui attendaient à l'extérieur du Grauman's Chinese Theater à Los Angeles, puis il s'est dit, mais voyons, c'est quoi le film qui est en première? Qu'est-ce qui se passe?
Wow.
Pour se rendre compte que c'était son film. Et il ne savait même pas que ça jouait à ce moment-là, tellement il était encore en train de travailler sur cette œuvre-là.
J'ai des frissons.
Quel soir, vraiment!
Que c'est beau! Et maintenant, on est rendu à un autre film qui va...
clore toute l'histoire.
Et tu l'as dit, on va passer du bon temps.
Oui, absolument.
Okay.
Donc, il sort quand exactement ici?
Ben, avant-première, demain dans quelques salles.
Okay.
Et vendredi officiellement partout. Là.
En plein pour le temps des fêtes. C'est malade.
C'est
oh, merci tellement, Philippe,
Philippe
Lemieux.
Merci premièrement plaisir. Pour la saison. Oh, puis oui. C'est sûr qu'on va se reparler en 2020.
Et certain.
Merci
quel
à toi.
Plaisir.
Ah, j'ai adoré ça vraiment.
Que la force soit avec toi.
Oui, Luc, je suis ton père. Oui, c'est bon.
Ouais, on est dans le cliché.
On est vraiment là-dedans. On va se faire la chanson de Noël. Jonathan Roy et Corey Hart pour Driving Home at Christmas à Sim 103-903.